Les infos à Washington.
Jean-Roger Billon, bonjour à tous. Il est 11h en temps universel. Le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed reçoit ce mardi à Oslo le Nobel de la paix lors de festivités réduites au strict minimum et purgées de toute rencontre avec la presse. Plus jeune dirigeant d'Afrique, le leader de 43 ans va se voir formellement remettre le prix lors d'une cérémonie qui commence à 12h GMT à l'hôtel de ville, en présence notamment de la famille royale norvégienne. La prestigieuse récompense lui avait été attribuée le 11 octobre pour saluer tout particulièrement ses efforts de paix entre son pays et l'Érythrée voisine. Le Nobel consiste en un diplôme, une médaille d'or et un chèque de 9 millions de couronnes suédoises, environ 1 million de dollars. L'Union européenne a décidé hier de maintenir pour un an des mesures restrictives visant 12 cadres du régime de l'ex-président Joseph Kabila et de les lever pour deux d'entre eux. Le point avec Eddy Sango.
Le Conseil européen a pris cette décision sur la base d'une évaluation de la situation en République démocratique du Congo, rappelant que le pays a connu en début d'année les premiers transferts de pouvoir pacifique de son histoire. Une source diplomatique affirme que Lambert Mende, ancien porte-parole du gouvernement, et Roger Kibelisa, ancien chef de l'Agence nationale des renseignements, sont les bénéficiaires de la levée des sanctions. M. Mende est redevenu député. M. Kibelisa a été nommé assistant du conseiller spécial en matière de sécurité du nouveau chef de l'État, Félix Tshisekedi. Ces sanctions, dont les gels des avoirs et des visas, ont été imposées en décembre 2016, puis début 2017 pour violation des droits de l'homme et en travaux au processus électoral. Elle visait aussi Kalev Mutonde, ancien chef de l'ANR, Emmanuel Ramazani Shadari, chef du Front commun et ancien candidat à la présidentielle, et John Numbi, inspecteur général de l'armée, appelé en renfort la semaine dernière auprès de l'état-major à Beni pour combattre les groupes armés qui font des massacres dans la région.
Aujourd'hui est célébrée la Journée internationale de lutte contre la corruption, un fléau présent presque partout et à plusieurs niveaux. Au Sénégal, par exemple, on le retrouve fréquemment dans la circulation avec des chauffeurs souvent victimes de policiers véreux. Correspondance à Dakar, Seydina Abagay.
1000 francs par ici, 2000 par là, à la place des contraventions, les billets de franc CFA sont devenus les principaux papiers échangés entre policiers et chauffeurs. Ces derniers n'ont d'ailleurs plus le choix. Ils s'y font, malgré eux. Moustapha Niang exprime son ras-le-bol.
On ne peut pas être chauffeur et ne pas être victime de la corruption. Comme on le dit haut et fort. La corruption, c'est un phénomène bon en vie. Tout Sénégalais a vu ça. Tout ce qui prend la route sait et voit la corruption. Nous, on ne peut rien. Ce que nous déplorons, moi, c'est que la corruption vraiment contrecarre notre travail.
Pour ne pas voir leur travail être au ralenti, les chauffeurs ont fini par s'adapter à cette situation. Maintenant, eux tous, ou presque, jouent le jeu pour éviter de perdre leur temps ou de s'attirer des problèmes évitables, comme l'indique Maud Fall. De victimes, les chauffeurs passent donc, malgré eux, à partenaires.
On est même devenu des potes, hein. Tu passes et il te dit, donc tu pars et après, si tu reviens, tu vas verser. Si tu ne payes pas, ils amènent tes papiers et une fois à la poste, oui, ils peuvent même raconter des histoires. Te dire, on t'a arrêté et tu as refusé, tu n'as pas tes pièces complètes et tu les as manqué de respect. Ou parfois, ils racontent des choses que tu ne peux pas même comprendre.
Les chauffeurs ne sont pas les seules victimes de cette corruption présente dans la circulation routière. Les usagers se plaignent également de l'attitude de certains policiers. Pour eux, cela n'honore ni leur tenue, ni les valeurs de la République. Mbaye Makembang est un étudiant et pour lui, c'est une pratique inacceptable.
Je trouve que c'est écœurant de voir un pays comme le Sénégal confronté à ces corruptions très répétées de jour en jour. C'est pas fondé parce que c'est comme si c'était obligatoire pour eux de payer parce que c'est comme si c'était un salaire pour les salaires journaliers pour les policiers. Or que si tu as un cours à 8 heures et qu'on arrête les voitures, c'est un retard ça. Parce que l'éducation elle est fondamentale, un retard, tu peux tout faire. Même 15 minutes de retard, tu peux tout perdre. Ça fait que retarder le pays, bon. Et de jour en jour, on est énervé par les problèmes de ce pays. Compte tenu de la corruption, c'est plus écœurant.
La corruption dans la circulation routière est certes très présente au Sénégal, mais elle ne concerne qu'une tranche des hommes de tenue. À l'opposé, certains sont des policiers modèles et leur porte-étendard est le célèbre Amoul Yakar, jugé incorruptible par les usagers. C'est d'ailleurs sur lui que se base la police nationale pour redorer le blason des policiers présents dans la circulation routière. À Dakar, Seydina Bagay pour VOA Afrique.
En Angola, le fils de l'ancien président José Eduardo Santos a commencé à comparaître hier devant un tribunal de Luanda pour des faits de corruption présumés. Lionel Gaïma.
José Filomeno de Santos, 41 ans, est jugé devant le tribunal suprême de Luanda avec trois complices présumés, dont Walter Felipe da Silva, ancien gouverneur de la Banque centrale. La justice leur reproche d'avoir transféré illégalement 500 millions de dollars de la Banque centrale vers le compte londonien d'une agence de crédit suisse dans le cadre d'une fraude qui lui aurait permis, selon le parquet, de détourner jusqu'à 1,5 milliard de dollars. Surnommé Zedou, le fils de l'ex-président a été nommé en 2013 à la tête du fonds souverain chargé d'investir les importants revenus pétroliers du pays. Il a été limogé en janvier 2018, quelques mois après le départ à la retraite de son père. Le nouveau président, João Lourenço, a limogé depuis son arrivée la plupart des proches de son prédécesseur. Isabel dos Santos, démissaire de José Filomeno, a été évincée du poste de PDG de la compagnie pétrolière nationale, la Sonangol. Présentée comme la femme la plus riche du continent, elle fait elle aussi l'objet d'une enquête pour détournement de fonds.
La justice algérienne a condamné aujourd'hui pour corruption deux anciens premiers ministres, Ahmed Ouyaïa et Abdelmalek Sélal, respectivement à 15 et 12 ans de prison dans un procès historique. Ces deux anciens responsables de l'aide du président Abdelaziz Bouteflika, poussés à la démission sous la pression de la rue en avril, étaient jugés avec d'autres ex-dirigeants politiques et des grands patrons. Abdel Salam Bouchouareb, ancien ministre de l'Industrie, en fuite à l'étranger, a lui été condamné par contumace à 20 ans de prison, selon l'agence de presse algérienne APS. Toujours en Algérie, les électeurs sont appelés à voter jeudi pour une présidentielle dont ils ne veulent pas, le scrutin étant perçu comme un moyen pour le régime de se régénérer. Aucun sondage n'a été publié, mais les observateurs s'attendent à une abstention massive dans un pays où elle était déjà chroniquement élevée au sein d'un régime politique jugé totalement figé. Les bureaux de vote à l'étranger ouverts depuis samedi sont quasi vides et les rares votants essuient les insultes et colibets d'opposants au scrutin. Depuis le 22 février, le régime est massivement contesté par un mouvement Irak inédit après avoir obtenu en avril la démission d'Abdelaziz Bouteflika à la tête de l'État. Depuis 20 ans, le Irak exige le démantèlement de l'ensemble du système politique au pouvoir depuis l'indépendance en 1962. Le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo a fait part lundi à son homologue égyptien Sameh Shoukry des inquiétudes des États-Unis au sujet de la liberté de la presse et de la situation des droits humains en Égypte. Lors d'une rencontre à Washington, il a également évoqué le cas de ressortissants américains détenus dans le pays, notamment de Mustafa Kassim, a déclaré le département d'État américain dans un communiqué. Cet Américain est incarcéré depuis 2013, accusé de participation à des manifestations contre le pouvoir du Caire. Il a été condamné en 2018 à 15 ans de prison.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Les parlementaires démocrates américains pourraient divulguer dès aujourd'hui les deux chefs d'accusation retenus contre le président Donald Trump dans son enquête en destitution, à savoir l'abus de pouvoir et l'entrave à la bonne marche du Congrès, selon plusieurs médias américains. La chef des démocrates au Congrès, Nancy Pelosi, a annoncé qu'une conférence de presse avec notamment le chef de la commission judiciaire, Jerry Nadler, le président de la commission du renseignement, Adam Schiff, se déroulera ce mardi pour annoncer les prochaines étapes du processus de destitution. Le président américain Donald Trump rencontre aujourd'hui le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov. La dernière visite du ministre russe à la Maison-Blanche en mai 2017 avait fait couler beaucoup d'encre. Son passage dans le bureau ovale avait alimenté une polémique sur l'éventuelle divulgation par le président Trump de documents confidentiels. Et puis les présidents russes et ukrainiens ont convenu de procéder d'ici la fin de l'année à l'échange d'ensemble de l'ensemble des prisonniers dans le cadre du conflit dans l'est de l'Ukraine, laissant de côté les questions sur le statut de Donbass qui doit faire l'objet de nouvelles discussions. Hier à Paris, aucune poignée de main publique n'a été échangée, mais les échanges ont permis d'aboutir à des engagements spécifiques avec un communiqué final annonçant l'échange de prisonniers et la promesse de mettre en œuvre avant la fin de l'année le cessez-le-feu conclu dans le cadre des accords de Minsk en 2014. Prochain journal dans 50 minutes avec Henri Fontaine.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.